Chapitre 12. Ma chambre se trouvait au deuxième étage du presbytère, sous les toits. Le vasistas donnait sur les flèches de la cathédrale. La pièce était mansardée, basse, et ses murs tordus par des siècles de lentes déformations. Je l'aimais déjà. Le déjeuner fut un régal, autant grâce à la cuisine qu'à nos échanges. Nous discutâmes longuement, nous remémorant l'époque où j'étais venu découvrir la cathédrale et y apprendre ses leçons. Benoît avait été l'un de mes maîtres. Il riait encore de ma jeunesse d'alors et de la quantité de questions que je lui posais du matin au soir. Il n'en pouvait plus de ce jeune homme qui voulait tout savoir sans pouvoir tout comprendre. L'après-midi, nous nous rendîmes ensemble à la cathédrale et il me montra les derniers travaux de restauration. Le charme opérait dès le portail franchi. Le lieu s'emparait de chaque son, de chaque mot, dans un écho apaisant. Les imposantes colonnes s'élevaient pour s'unir sous la voûte. L'immensité du lieu vous emplissait d'humilité. On éprouvait un sentiment de sécurité, de sérénité. Les rayons du soleil filtrés par les vitraux projetaient dans tout l'édifice des taches de lumière multicolores. Benoît me présenta le nouvel organiste, un jeune Irlandais arrivé depuis peu, et me proposa d'assister le soir même à sa répétition en prévision de la messe de minuit. Le chœur était éclairé par quelques projecteurs. Près du transept dansaient les lueurs des dizaines de cierges allumés par les fidèles dans l'espoir d'obtenir la grâce de Notre-Dame du Pilier. Chacune de ces flammes était un ultime recours. Je regrettais qu'aucune ne soit désintéressée. Les hommes, par faiblesse davantage que par malice, n'attendent de Dieu et de ses représentants que des miracles. Jamais de reproches. Ce sont souvent les mêmes qui voient dans cette cathédrale le symbole d'un pouvoir magique, fascinant, alors qu'elle n'est que la preuve que les humains peuvent tout lorsqu'ils s'unissent vers un même but. Chaque mur, chaque dalle, chaque pierre ouvragée, chaque vitrail est un morceau de la vie de ses créateurs, le résultat de l'expérience, un modèle de parfaite cohésion. Chacun pouvait venir puiser en ces lieux l'inspiration. Beaucoup ne repartaient qu'avec des cartes postales. On ne trouve que ce que l'on cherche. Nous fîmes le tour, parcourant le transept, le déambulatoire, le chœur et le maître-autel, défigurés au XVIIIe siècle par une énorme sculpture à la mode de l'époque, un amas de marbre de 6 mètres de haut et presque autant de large censé figurer l'Assomption. Cette lourdeur tranchait dans la sobre pureté qu'avaient voulu les créateurs du lieu. Dieu devait avoir de l'humour pour laisser faire tout cela. Je n'arrivais pas à comprendre ceux qui détruisaient la quiétude à coups de flash, d'exclamations convenues. Celles qui martelaient le silence de leurs talons aiguilles en ignorant le recueillement des autres. Et dehors, il y avait les marchands, leurs bibelots hideux fabriqués en Chine et le commerce qu'ils faisaient d'une perfection qu'ils ne rencontreraient jamais en suivant cette voie. Notre époque confondait tout. L'argent et le bonheur, le pouvoir et la une des journaux, l'estime de soi et le regard jaloux des autres. En redescendant vers Saint-André par les ruelles, Benoît me détailla ses projets, comme toujours nombreux. Il ne vivait que pour la passion du savoir, la connaissance de ce lieu essentiel et sa préservation. À peine étions-nous rentrés qu'il m'entraîna dans son bureau. Pêle-mêle, livres anciens et ouvrages modernes recouvraient chaque meuble, s'empilant jusque dans les coins de la pièce et sous la fenêtre. Un micro-ordinateur émergeait péniblement de cette accumulation. Benoît referma la porte derrière nous et me fit signe de m'asseoir. S'approchant de la bibliothèque, il écarta plusieurs volumes d'une encyclopédie pour faire apparaître un coffre-fort qu'il ouvrit. « Ce ne sont pas tant les voleurs qui me font peur, m'expliqua-t-il. Ils n'y comprendraient rien. C'est le feu que je redoute. Tu en as l'habitude, toi. Tu ne le crains pas, mais pour nous autres, il signifie la destruction du savoir, la fin des écrits. Il en extirpa un objet enveloppé de velours pourpre et déplia l'étoffe avec précaution, révélant un petit livre usé, d'un format inhabituel pour l'époque dont il semblait daté. Benoît le posa devant moi et dit « Il date du XIIe siècle. » C'est le journal d'un des frères qui ont supervisé les travaux de construction de la cathédrale. On y apprend le pourquoi et le comment. il doit exister d'autres tomes. L'émotion faisait vibrer sa voix. Après une pause respectueuse, il reprit. Tu te rends compte? Il a pensé à tout écrire, comme dans un manuel d'école, pour le futur, pour toi, pour moi. Ce frère n'est plus, et pourtant il nous parle encore. Cette pratique n'était pas courante à l'époque. Qui sait si cet homme n'était pas un autre de Vinci? Après avoir demandé sa permission, je tournai quelques pages du précieux ouvrage. Des textes, des croquis, des calculs. Le document était de toute évidence inestimable. On l'a trouvé le mois dernier en consolidant une paroi dans une annexe de la crypte, raconta Benoît. Il aurait pu rester là à tout jamais. Je passe la majeure partie de mon temps à le traduire. C'est un trésor. Tu te souviens des laboratoires médiévaux que nous avons vainement cherchés voilà 4 ans? Comment pourrais-je oublier? Il en est question. L'auteur les mentionne à plusieurs reprises. Tu en as parlé à William? Aussitôt, bien sûr. Il a lui-même suggéré d'organiser une nouvelle mission archéologique. Les quelques renseignements contenus dans ce volume seront peut-être suffisants pour combler nos lacunes et nous permettre de les trouver enfin. J'espère que tu me feras signe. Compte sur moi. Nous ne sommes que quelques survivants de la première expédition. Nous aurons forcément besoin de toi. Tant de choses me revenaient en mémoire. Au cours des siècles passés, plusieurs ordres religieux avaient développé la recherche dans tous les domaines scientifiques alors connus, la médecine, l'astronomie, l'agronomie, la chimie. Il existait dans toutes les abbayes des moines ne se consacrant qu'à cette tâche, avec 2 supériorités essentielles sur leurs confrères laïcs, l'absence d'intérêt personnel et une mise en commun des résultats d'un laboratoire à l'autre. Les cisterciens étaient probablement les plus précurseurs. Leur méthode révolutionnaire pour l'époque leur valait une réputation que jalousaient les puissants de leur temps. Même si aucun pouvoir n'avait osé affronter en face ceux qui connaissaient beaucoup trop de choses sur tout le monde, bon nombre d'attaques contre ces lieux d'études furent menées par de mystérieux mercenaires. Il était donc devenu nécessaire de détruire ou de dissimuler ces laboratoires afin que leur découverte ne tombe pas entre des mains mal intentionnées. Beaucoup de ces endroits n'avaient jamais été retrouvés. La volonté de les localiser avait décidé le groupe, 4 ans auparavant, à organiser une expédition de plusieurs mois à travers l'Europe. En France, Chartres, Vézelay, Montségur, entre autres, avaient été passés au crible. Nous y avions trouvé de très nombreuses données, parfois même inconnues jusqu'alors. Essentiellement, par principe, nos ennemis avaient épié chacune des étapes. Sans savoir ce que nous cherchions, ils observaient, essayant parfois d'anticiper nos activités, sans succès car ils avaient un handicap de taille, non seulement les politiciens corrompus et les trafiquants d'armes, de drogues ou de données sensibles font de très mauvais chercheurs, mais ils n'ont pas accès aux archives des ordres religieux. Benoît me ramena au présent. Ça en réveille des souvenirs, n'est-ce pas? Il ne se doutait pas à quel point.